mode d'emploi.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission Mode d'emploi, animée par l'équipe de la quatrième dimension. On remercie Claude d'être aux manettes. On assurera l'animation, Laurent et Corentin.
Donc l'émission de ce soir est consacrée aux peuples autochtones et à leurs droits. La première question qui s'est posée quand on a commencé à préparer l'émission est la définition de peuple autochtone. Qui est autochtone? Suis-je autochtone? Comment est définie une culture ou une société autochtone? Quelles sont-elles? Les peuples autochtones sont divers? Sont-ils homogènes? Y a-t-il des points communs dans leur manière de construire la société ou dans leur rapport à leur environnement, à la terre, à la nature? Donc, afin de répondre à toutes ces questions, nous avons donc trois invités ce soir, qui sont donc Marion Weber. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, qui est responsable de programme chez France Liberté. Nous avons Ludovic Pierre.
Et bonsoir.
Donc, qui représente le peuple autochtone Kalina de Guyane. J'espère que je prononce bien le terme Kalina. Et donc, nous avons également Marine Denga Agbe, donc qui est chargée de communication chez Survival.
Bonsoir.
Vous pourrez donc réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin. Ou la podcaster comme toutes les précédentes autres émissions. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi vous appeler au 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10 pour toute question, intervention. Prenons pour cette première partie les bases. On va se poser la question de qu'est-ce qu'un peuple autochtone. On a posé beaucoup de questions dans notre introduction et je vous propose d'y répondre. Qu'est-ce qu'un peuple autochtone? Combien ça représente de personnes? Quels sont les différents types? Est-ce qu'il y a différentes catégories? Je laisse la parole à Marie.
Alors c'est un terme, enfin il n'y a pas vraiment de consensus universel pour une définition parce que ça représente quand même des situations tellement différentes et des enjeux politiques tellement différents. Après les Nations Unies, ils comptent 350 millions de personnes autochtones dans le monde. Nous chez Survival, quand on parle de population autochtone, on parle de sociétés autochtones dites tribales. C'est-à-dire qu'on parle des sociétés autochtones qui sont presque autosuffisantes.
Pourquoi presque?
Parce que parfois elles ne sont pas totalement autosuffisantes et ça n'empêche pas qu'on puisse être considéré comme un peuple autochtone, même si de temps en temps on sort dans la société dite dominante. Ils dépendent de leur terre pour leur santé et leur bien-être. Je pense que ça c'est vraiment un point très important, l'attachement spirituel, culturel et émotionnel à la terre. Je pense que c'est ce qui lie tous les peuples autochtones dans le monde, si on peut avoir un point qui les réunit tous, un point commun. Je pense que c'est celui-là. Après, d'accord. Et puis, c'est aussi des sociétés qui ont suivi pendant des générations un mode de vie qui est différent du courant principal. C'est des sociétés qui étaient là avant l'époque, l'époque coloniale, qui est antérieure, qui souvent parlent une langue qui n'est pas apparentée avec la langue qui est maintenant officielle. Voilà. En gros, ça serait ça. Qui sont, voilà, comme je le disais, qui ont aussi des structures de société qui sont différentes de la société qui est aujourd'hui dominante. Marion. Et qui sont non industriels.
Marion ou Ludovic, vous voulez compléter, ajouter?
Oui, peut-être ajouter sur l'estimation, Marie, donc tu disais 350 millions. Et effectivement, c'est assez dur à estimer en fait, le nombre de personnes considérées comme autochtones parce qu'il n'y a pas de statistiques. Et puis parce qu'aussi, la question de définition, elle est aussi liée à l'autodéfinition. Est-ce que la personne s'autodéfinit comme autochtone ? Et ça, évidemment, les États, il y a énormément d'États qui ne recensent pas. Donc en fait, les estimations seraient peut-être plus proches de 400 à 500 millions de personnes. Et comme le disait Marie, c'est une catégorie qui englobe une très grande diversité de peuples. Et par exemple, les peuples autochtones parleraient au moins 5000 langues, c'est-à-dire d'accord, au moins 5000 cultures minimum. Donc c'est une grande hétérogénéité de peuples, mais effectivement, le lien à la terre est quand même particulier.
Si on dit 5000 langues, c'est 5000 peuples différents ? 5000 cultures différentes ?
Pas toujours. Par exemple, ouais, les Kanaks, rien qu'à eux, ils ont 28 langues. D'accord. Mais ça donne quand même une idée de l'ampleur de la diversité des peuples autochtones. Et d'ailleurs, c'est important d'insister sur la liaison peuples autochtones, du coup, parce qu'ici, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a vraiment une pluralité.
Je pense que dans la tête de nos auditeurs, quand on parle de peuples autochtones, on pense tout de suite à l'Amérique.
Peuples autochtones.
Qu'elle soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Mais ça ne se réduit pas à ça, il y en a partout dans le monde. Je vous laisse la parole peut-être là-dessus pour nous expliquer un peu cette diversité, qu'il y en a c'est partout.
Oui, il y en a partout. Il y en a, nous on travaille pas mal par exemple dans le bassin du Congo, où il y a les populations, les peuples pygmées Baka, il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Australie. Les aborigènes, en Inde il y a une grosse communauté, il y a une grande partie de peuples autochtones en Inde. Oui, il y en a à peu près partout dans le monde, en tout cas en Afrique, en Amérique et en Asie.
J'ai vu que c'était un sujet aussi récemment sur les élections à Taïwan, où il y a une partie de la population non négligeable qui est aussi peuple autochtone, et donc c'était un des enjeux de ces élections. Oui, Ludovic, vous vouliez non?
Marion.
Non, j'allais dire qu'il y en a effectivement partout sur les 6 continents et j'allais préciser, y compris en France. Parce qu'on a tendance à l'oublier.
Bien sûr, oui.
Par exemple, en France métropolitaine ou
Alors non, plutôt l'outre-mer, puisque l'idée, c'est une des définitions quand même derrière la question autochtone, c'est des peuples colonisés. Donc ça va plutôt se trouver effectivement du côté de l'outre-mer, mais je pense que Ludovic peut peut-être préciser au moins pour la Guyane.
Du coup, donc moi c'est Ludovic, je suis Kalinien, c'est l'une des 6 nations autochtones de Guyane. Du coup, oui, c'est vrai, on a souvent tendance à oublier que en France, sur le territoire français en tout cas, il existe des peuples autochtones, que ce soit en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, c'est quoi là qui sont...
Enfin, non, mais peut-être vous pouvez, tu peux présenter le peuple, les peuples guyanais, vivent en Guyane, je veux dire.
La Guyane,
la situation de la Guyane, on peut en parler maintenant.
Du coup, en fait, c'est vrai qu'il y a eu la colonisation européenne, et les peuples autochtones en fait ne sont pas les seuls à avoir été colonisés en fait, parce qu'il y a aussi l'esclavage. Les Afro-descendants sont aussi des colonisés, mais pas autochtones du coup. Et qu'est-ce qui différencie en fait les peuples autochtones et les autres peuples de Guyane, c'est vrai qu'il y a ce rapport intime à la terre. Il y a aussi des visions différentes en fait de tout ce qui est définition du monde en fait, des pays ou autres. En fait, par exemple, le peuple kalien existe sur plusieurs pays, que ce soit du Brésil jusqu'au Venezuela. Et du coup, en fait, la notion de peuple et de territoire doit être redéfinie en fait en fonction de la vision de notre vision en fait. Et cela ne correspond pas toujours à la réalité politique ou juridique que proposent les différents gouvernements et les différents États où ces peuples autochtones existent en fait. Et c'est une situation complexe en fait qui dure depuis la colonisation en fait, même s'il y a eu plusieurs évolutions, c'est-à-dire on est passé quand même de sauvages, d'indiens d'Amérique, etc. d'indigènes, aborigènes à autochtones. Et il faut savoir que c'est un terme, c'est quelque chose en fait qui est extérieur à nous, c'est-à-dire on ne s'autodéfinit pas autochtone en termes d'identité, mais on s'autodéfinit autochtone en termes de position vis-à-vis d'une société dominante en fait. Mmh. Et c'est ça le point le plus important, je pense, c'est que en vrai, moi en tant que Kalinia, je ne peux pas à moi seul définir ce qu'est un autochtone en fait, parce que déjà, il existe plusieurs peuples autochtones, mais aussi c'est parce que ça existe dans un contexte de colonisation. C'est-à-dire que les Européens, par exemple, ont leur part de définition de ce qu'est un autochtone vis-à-vis de leur compréhension même de leur propre société, en fait. C'est-à-dire qu'on est autochtone vis-à-vis d'une société dominante, et la société dominante actuelle, elle est occidentale, mmh, industrialisée, etc. Et il faut que les dominants, ceux qui appartiennent aux sociétés dominantes, se définissent eux-mêmes pour pouvoir comprendre ce qu'est les sociétés autochtones, en fait. Il faut savoir que, par exemple, dans les zones urbaines, en fait, il y a très peu ce lien à la terre, par exemple. Et quand on parle de lien à la terre, ça paraît un peu folklorique. Sauf que le rapport intime n'est pas folklorique, en fait. Il y a plusieurs connaissances, il y a des héritages, il y a des héritages spirituels, culturels, traditionnels, etc., mais aussi des connaissances, en fait, des connaissances scientifiques, par exemple. Et c'est vrai que, ayant passé plusieurs années ici, en France, j'ai compris qu'en fait, ici, on a beaucoup de mal à identifier ce qu'est une autre science ou d'autres peuples ou d'autres visions, en fait, parce que le contexte urbain fait qu'on est focalisé sur la réalité urbaine. Et du coup, en fait, il faut, pour bien comprendre les peuples autochtones, il faut d'abord comprendre ce qu'est la société urbaine actuelle, en fait. Mmh. Je pense.
On parle beaucoup de rapport à la colonisation. C'est vraiment important dans la définition du peuple autochtone, Marie ?
Mais le fait, comme il disait, qu'en fait, c'est des sociétés qui se retrouvent minoritaires dans les territoires où ils sont et où il y a une société qui est maintenant dominante, qui n'était pas la population ou la société qui était là à la base, les peuples autochtones. Ça fait parfois des centaines, même des milliers d'années qui sont sur ces territoires. Comme il disait, les frontières, les peuples autochtones qui sont en Guyane, la frontière entre la Guyane et la Guyane française et le Brésil, ça n'a pas de sens pour certaines populations autochtones qui sont les mêmes. Pareil entre le Venezuela, Yanomami par exemple, entre le Brésil et le Venezuela. Ils font partie du même peuple, entre guillemets, c'est des frontières qui ont été mises en place par la colonisation, par l'Espagne, par le Portugal, ou après, en Afrique, c'est d'autres mouvements. Mais voilà, ouais, je crois que c'est important de dire que c'est des sociétés qui sont maintenant, qui sont minoritaires sur leur territoire par rapport à une société dominante, et qui ont une vision de cette société et une structure société qui est complètement différente de la société qui domine, du modèle dominant.
Et alors, ce rapport à la terre, il y a 360 ou 350 millions de personnes autochtones estimées dans le monde. Combien vivent dans ce contexte, on va dire, traditionnel, et combien on va dire un peu perdu ce lien du fait du colonisateur ou des politiques aussi d'assimilation, parce qu'il y a, on n'en a pas encore parlé, mais avec la colonisation, ça s'est accompagné aussi d'assimilation forcée.
Oui, pour bien comprendre la chose, en fait, c'est... Disons que les... Excusez-moi, j'ai un peu... Et, en fait, le lien à la terre a été souvent détruit, en fait, par la spoliation des terres, justement. Toute cette agression, en fait, juridique, militaire, etc., qui privait, en fait, les peuples autochtones de jouir de leur propre territoire, en fait. Et c'est vrai qu'il y en a qui, ce qu'on appelle entre guillemets les peuples, les tribus isolées ou peuples isolés ou autres, en fait, c'est vrai qu'ils ont eux-mêmes décidé de s'éloigner des sociétés dominantes. Mmh. Beaucoup des peuples autochtones dans le monde ne l'ont pas fait, en fait, au vu de l'urbanisation accélérée de ces siècles derniers, eh bien, en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ce qu'on pourrait appeler assimilation, mais ce lien à la terre est toujours là, en fait. Et c'est montré notamment dans ce malaise, en fait, qu'il y a dans l'intégration, c'est-à-dire même si un autochtone, enfin je parle au nom des autochtones, mais disons que c'est quand même une réalité vécue par un grand nombre, c'est le fait qu'il y ait toujours ce malaise-là dans l'intégration dans la société dominante. On n'a jamais notre place, enfin une bonne place ou une place légitime dans la société dominante, en fait. Et ce malaise-là existe. Et ça se traduit souvent par un nombre excessif de suicides, en fait.
Ça va être une très bonne transition, ouais, avec notre deuxième partie.
Oui, on y reviendra juste après cette première coupure musicale. Unchain my heart. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission Mode d'emploi est animée ce soir par l'équipe de la 4e dimension et elle est consacrée aux peuples autochtones. On voulait revenir sur ce que tu disais, Ludovic, et ce que tu racontais sur un peu l'histoire des peuples, et notamment des peuples des nations guyanaises, et sur le malaise qui est le vôtre suite à toutes ces attaques finalement vis-à-vis de votre société et notamment tout ce qui est assimilation forcée, acculturation à la société dominante.
D'accord. Pour contextualiser, en fait, on peut séparer deux périodes. Il y a eu vraiment la période où il y a eu des guerres entre nations autochtones d'Amazonie et nations européennes. Ensuite, du coup, vu le déclin de la population autochtone, etc., du coup, ça a engendré pendant quand même quelques temps une autre évolution. En fait, ça a permis l'industrialisation de tous les pays d'Amérique. Et du coup, les autochtones ont été un peu évincés, en fait. En ce qui concerne la Guyane, après la départementalisation, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs stratégies d'assimilation des nations autochtones qui ont survécu à la colonisation, en fait. Il y a eu notamment ce qu'on appelle les Home Indians, c'est-à-dire des internats catholiques. Le concept, entre guillemets, c'était d'arracher les enfants à leur famille et de les obliger à être scolarisés et à suivre un enseignement français et religieux, en fait. Et donc ça a permis quelque part à l'État français de vraiment couper les racines la racine culturelle des jeunes autochtones, en fait. Et le but même était flagrant, c'était de dire que il fallait tuer l'Indien, en fait. Il fallait tuer l'Indien et après, donc, on serait plus malléable, etc. C'était dans les années 60 et ça a perduré encore quelques décennies. Mais disons que suite à ça, les premiers enfants qui ont suivi ce parcours catholique et scolaire, il y a eu des leaders autochtones qui ont émergé de là, en fait, qui se sont appropriés du coup cette manière de se battre, en fait, comprendre la langue française, comprendre c'est quoi tout ce qui est concept juridique, etc. Ils se sont appropriés de tout ça pour, au final, créer un mouvement qui est semblable à beaucoup de mouvements autochtones dans le monde, hein, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs en Amérique du Sud. Et du coup, ça a permis de faire naître le premier mouvement politique cette fois. C'est pour ça que j'ai parlé de période. En fait, c'était plus c'était plus des guerres armées, mais on va dire c'est une lutte maintenant politique, juridique, dans les années 80, en fait.
D'accord.
Donc de ces internats, en fait, sont sortis au final les premiers leaders politiques qui jusqu'à présent, en fait, certains mènent toujours le combat. D'ailleurs, Survival avait relayé le fameux discours de Félix Tshuka, qui est un discours qui a initié en fait tout le mouvement politique autochtone de Guyane. Et en 2017, il y a eu ce qu'on peut appeler une piqûre de rappel, c'est-à-dire qu'à présent, c'est d'autres jeunes autochtones en fait qui ont pris le relais et qui continuent le combat, en fait.
C'est une... Oui, je laisse la parole peut-être pour rebondir. S'il y avait des précisions, je poserai ma question ensuite.
Oui, en fait, je voulais préciser ce qu'on partait sur la question du rapport à la terre. Et justement, par exemple, au tout départ, la colonisation se fait en se basant sur l'idée de terra nullius, donc de terres qui n'appartiennent à personne et donc on peut s'accaparer. Donc on nie complètement le fait qu'elles sont habitées. Et en Guyane, le terme qui était utilisé, c'est les terres vacantes et sans maître. Et donc, du coup, on s'approprie le foncier, la France s'approprie les territoires. Et du coup, il y a une bataille actuelle, mais Ludovic pourra sûrement en parler mieux que moi, mais il y a une bataille aujourd'hui pour récupérer une partie de ces territoires et les restituer, en fait, aux autochtones. Et la France, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de rétrocession. Sauf qu'en disant rétrocession, ça voudrait dire le possesseur, c'est lui, a lui-même donné ses terres. Alors que là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a volé. C'est pour ça qu'on préfère parler de restitution et que c'est important aussi la bataille des mots, parce que c'est quand même pas la même chose, rétrocéder ou restituer. Et là, en l'occurrence, il y a un vrai enjeu foncier de récupération des territoires.
Marie, du coup, c'est bien ce mécanisme qui est en place pour les différents peuples autochtones que vous accompagnez, c'est-à-dire c'est une culture qui est attaquée et il y a cette volonté d'extraire ces gens de leur culture pour les assimiler ou les mettre de côté, se réapproprier les terres, c'est ça la démarche ?
Par rapport à ce que disait Ludovic, oui, c'est ce qui s'est passé, on l'a vu en Australie, au Canada, aux États-Unis. Et nous, on a une campagne qui est toujours en vigueur parce que c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a encore 2 millions d'enfants qui sont dans des écoles que nous, on appelle écoles-usines, parce que c'est des écoles qui les prennent pour les formater et pour leur enlever tout lien avec leur peuple. Et voilà, elles sont encore ouvertes. Il y en a beaucoup en Inde, notamment. Et c'est un moyen, comme je disais, de couper tout ce lien avec la terre, que ça soit aussi plus facile de spolier les terres, que les enfants ils aient plus ce lien avec leur culture, ils aient plus ce lien avec la langue, et donc ils aient plus ce lien avec la terre, et ça permet de pouvoir soit exploiter les ressources, ou en tout cas de casser un peu toute velléité de rester sur leur territoire. On avait une campagne en Inde avec les Dongri Agong, où justement ils voulaient construire une mine, et on s'est battu avec eux pour qu'il n'y ait pas la mine, et en fait, donc ils ont gagné. Et puis, quelques temps après, il y a une entreprise minière qui a offert d'ouvrir une école pour enfants autochtones dans le territoire. Donc, ce n'est pas encore fait, mais voilà. C'est souvent en Inde, cette école qui est la plus connue, qui s'appelle Kiss, est liée avec des intérêts privés. Donc, c'est vraiment enlever tout lien avec la culture. C'est le moyen aussi d'enlever ce lien avec la terre qui fait que les gens ont envie de récupérer leur territoire ou de rester sur leur territoire.
De façon très naïve, avant de préparer cette émission, j'imaginais que c'était de l'assimilation. C'est-à-dire que c'était le contact de proximité avec les cultures dominantes qui faisait que petit à petit, il y avait une érosion de ces cultures autochtones. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est pas la frontière, c'est qu'il y a des actions concrètes, fortes, pour assimiler et détruire. Peut-être le mot est un peu trop fort, mais...
Bah, Si on regarde, 80% de la biodiversité, elle est sur les territoires autochtones. Pour les gens qui vivent encore sur ce territoire, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour la santé, pour l'éducation, pour construire leur maison. Enfin, c'est tout, le territoire, la forêt pour les peuples autochtones. Alors, pourquoi ils auraient envie de... L'érosion qui se crée, c'est parce qu'on a envie d'enlever ces peuples aux territoires qui sont riches en biodiversité parce qu'il y a des intérêts derrière.
Et alors, face à cela, quels ont été les... Donc, on a expliqué là qu'il y avait des mouvements politiques qui s'étaient créés, là, par exemple, en Guyane. Est-ce qu'il y a la communauté internationale qui s'est un peu dressée face à ces, on va dire, ces drames pour ces sociétés-là?
Peut-être rappeler qu'effectivement, notamment dans les années 80, la question autochtone, elle va beaucoup émerger. Et il va y avoir, en fait, certains groupes au niveau des Nations Unies qui vont se mettre à plancher, en fait, sur la situation que vivent les autochtones et à plancher sur un projet de déclaration des droits des peuples autochtones. Et en fait, c'est un sujet qui émerge dans ces années-là parce qu'il y a justement une très forte appropriation des territoires et une exploitation de ces territoires, hein, puisqu'effectivement, on est dans ces années-là où on va construire à tout va des mines, des grands barrages, etc. Et en fait, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on va se mettre à employer le mot « peuples autochtones » pour traduire en fait cette caractéristique commune. Et à l'époque, les caractéristiques communes qui étaient vécues, c'est effectivement ce lien à la terre, mais aussi le fait que c'était des peuples marginalisés, discriminés. Et donc les Nations Unies commencent à se rendre compte que ces peuples-là vivent des situations dramatiques et vont commencer donc à plancher. Et ce qui est intéressant, c'est que les autochtones vont être invités à l'ONU pour travailler sur ce projet de définition. Donc pour une fois, ils vont être intégrés à la définition de ces droits, et c'est quand même quelque chose à souligner. Bon, ça a pris plus de 20 ans, c'est toujours très long au niveau des Nations Unies, mais c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, Ludovic disait tout à l'heure qu'il y avait ces leaders au niveau guyanais, amérindien qui émergeaient, et pour certains, ils ont justement activement participé à la définition de ces droits, parce que c'était un vrai enjeu de définir des droits, et notamment des droits collectifs.
D'accord, ouais. Et ça aboutit à une déclaration des droits, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est la consécration, en gros, c'est en 2007. L'Assemblée générale des Nations Unies approuve, et donc c'est la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui comporte un certain nombre de droits, et notamment le droit à l'autodétermination, qui est fondamental. C'est le droit autour duquel tous les autres tournent, le droit au territoire, terre, ressources. Et donc, en fait, la notion de peuples autochtones, elle induit derrière elle la notion de droit collectif.
D'accord. Donc, potentiellement, ce que ça veut dire, c'est que si les Kalina voulaient s'autodéterminer, ils pourraient
en théorie,
ils pourraient le choisir.
Juste parce que c'est lié à la Convention 169 et la France refuse de la signer, justement.
Alors, dites-nous, c'est cette convention 169.
En fait, la France, c'est un peu le seul instrument contraignant par rapport au droit. Et
d'accord.
La France considère que c'est contraire à la Constitution française parce qu'on ne peut pas reconnaître toute distinction fondée sur l'origine ethnique. Donc, la France refuse de ratifier la convention qui permettrait de pouvoir protéger un peu plus les droits des peuples autochtones de Guyane ou de Nouvelle-Calédonie.
Ce qui est contradictoire parce qu'ils faisaient partie des pays qui ont voté pour la déclaration. Contrairement, de mémoire, il y en a quatre qui ont voté contre, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, donc les plus gros, les plus concernés en fait.
Oui, ils ont voté contre, mais ils se sont tous ravisés, donc aujourd'hui elle est reconnue par tous. Mais effectivement, en France, on se base sur ce fameux article 1 de la Constitution, la France est une indivisible, donc on ne peut pas reconnaître de soi-disant de peuple au sein du peuple français, sauf qu'il y a quand même l'exception avec les Kanaks, où on reconnaît le peuple Kanak, donc c'est une énorme brèche quand même qui a été ouverte.
Bien sûr.
Et c'est un enjeu majeur aujourd'hui que la France reconnaisse les peuples autochtones sur son territoire. Mais elle ne le fait pas. Et pire que ça, c'est qu'elle ralentit les négociations au niveau international. C'est-à-dire que systématiquement, dans toutes les négociations où on va traiter des questions autochtones, elle va s'opposer à ce qu'on parle de peuples autochtones. Donc elle, à la fois en interne, c'est pas terrible, c'est vraiment un mauvais élève, mais c'est aussi un des États qui fait ralentir les négociations.
D'accord, et c'est toujours dans cette stratégie de garder la main mise sur la terre, avec des intérêts qui sont notamment miniers, que ce soit en Nouvelle-Calédonie avec c'est le nickel, hein, il me semble, ou en Guyane avec l'or. Ça.
Je pense que Ludovic dira mieux, mais en tout cas, s'il ratifiait cette convention, ça permettrait en tout cas au peuple autochtone de Guyane de s'opposer un peu plus fortement et avec un peu plus de poids juridique à des projets comme la Montagne d'Or, par exemple.
On peut en parler de la Montagne d'Or, Ludovic, parce que je crois que vous avez été impliqué dans le mouvement contre ce projet.
Et du coup, je fais partie du mouvement Jeunesse Autochtone de Guyane qui était vraiment actif en 2017. Dans les mouvements sociaux, mais juste après avec la campagne Montagne d'Or, on a été aussi très actifs, on a mobilisé du monde, etc.
Alors peut-être rappeler aux auditeurs, c'était quoi le projet Montagne d'Or ?
Alors le projet Montagne d'Or, c'est une méga industrie minière, donc c'était pour extraire de l'or en Guyane. C'était, je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'était vraiment un méga
un gros projet
qui, à l'heure actuelle, n'existe pas encore en Guyane, en fait, à cette échelle-là. Et, c'était un projet destructeur, en fait, de la nature et du coup des sociétés humaines, en fait, qui sont en Guyane. Et à l'heure actuelle, du coup, c'est en suspension, en fait, mais c'est pas... C'est pas arrêté pour autant, en fait.
Ouais. Il y a toujours... Pourtant, le président Macron ils ont communiqué sur l'arrêt du projet, mais c'est pas vraiment le cas, en fait. C'est suspendu, c'est ça?
C'est suspendu et en même temps, en parallèle, il y a plusieurs projets plus petits, en fait, qui ont quand même abouti. Notamment, il y a eu l'inauguration d'une mine sous cyanuration, c'est-à-dire c'est une méthode avec du cyanure pour extraire de l'or. Et c'était la même méthode que la campagne Montagne d'Or proposait, en fait. Donc on suppose que ça jouera, en fait, comme argument si le projet est relancé. Voilà.
Donc le projet Montagne d'Or est en suspens, ouais, mais il y a des mini-projets qui se lancent autour.
Ouais.
Marion, vous vouliez rebondir là-dessus?
Oui, parce qu'en fait, la fondation d'Annie Mitterrand a été pas mal impliquée sur cette bataille au départ, quand le projet commence à émerger. Et en fait, le projet est effectivement suspendu pour le moment, mais il ne faut quand même pas oublier que M. Macron était un de ses plus grands promoteurs au tout départ, quand il était encore ministre. Et qu'en fait, là, l'enjeu qu'il essaye de faire passer, c'est la soi-disant mine verte. Donc, en gros, il demande à la compagnie de revoir un peu sa copie, de la verdir et de demander plus de sécurité au niveau environnemental. Mais donc, ça ne ferme pas complètement la porte. Et en gros, ce qu'on est en train de dire aux compagnies minières, c'est venez en Guyane, mais soyez vraiment très clean,
ouais,
et faites-nous une mine propre.
Sauf que nous, ou donnez-en l'apparence.
Voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'une mine propre, par essence, ça n'existe pas.
Alors, on va reparler de toutes ces mobilisations dans la dernière partie de l'émission. On va faire une dernière pause musicale. On va écouter Bob Marley. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission Mode d'emploi est animée ce soir par l'équipe de la 4e dimension et elle est consacrée aux peuples autochtones et à leurs droits.
Pour continuer dans notre émission, on va faire effectivement cette troisième partie où on va voir quels sont les combats à venir, quels sont les risques qui pèsent, les actions politiques. Je vais peut-être laisser la parole à Marie dans un premier temps. On se posait la question un peu dans l'intercession de cette image qu'on qu'on attribue aux peuples autochtones, à la fois médiatiques, de tout le monde, qui a une vraie nuisance. Est-ce que ça fait partie des combats à mener dans le futur ?
Ouais, l'une des grosses menaces qui pèsent sur les peuples autochtones, c'est le racisme, qui après engendre cette vision qu'on a de peuples primitifs, arriérés, qu'on peut lire dans les médias, qu'on peut entendre dans la bouche de certaines personnes, et qui sert aussi pour décider qu'ils ne peuvent pas avoir le droit à l'autodétermination. S'ils sont primitifs et arriérés, bah, il faut que la société dominante décide pour eux. Voilà. Donc je pense que le racisme aussi est un peu la base, ou en tout cas la source de beaucoup de choses qui sont mises en place contre eux. Après, dans les campagnes, enfin dans les combats à mener, bah, y a cette chose-là de considérer que ce sont des peuples et de faire respecter leurs droits fondamentaux et leurs droits au territoire, et les droits qui sont mis en place avec la déclaration dans tous les pays où ils sont présents. Y a aussi, nous, on a une campagne qui se bat pour mettre aussi les peuples autochtones au centre de la protection de la nature, parce que l'une des autres grosses menaces qui pèsent, et on n'y pense pas souvent, on pense souvent que c'est les industries privées qui sont des menaces pour leur territoire. Mais il y a un mouvement de la protection de la nature qui a décidé qu'il faut faire des zones protégées. Et donc la conception occidentale des zones protégées, c'est des zones où il n'y a personne, où il n'y a pas de population, où il n'y a pas de peuple. Alors que, comme on le disait, ça fait des millénaires que les peuples autochtones sont dans leur territoire, qu'ils en prennent soin, parce que c'est toute leur vie, et qu'ils savent le gérer mieux que personne. Donc il y a des grosses organisations de la protection de la nature comme WWF qui créent des zones protégées, qui expulsent les peuples autochtones de ces zones, notamment par exemple dans le bassin du Congo ou en Inde dans les réserves de tigres. Et je pense que c'est vraiment au centre du débat en ce moment, comment on peut préserver la biodiversité, comment on peut préserver la nature. Et ben, il faut pousser ces grandes organisations à considérer que les peuples autochtones doivent être au centre des décisions pour protéger la nature, et qu'ils sont les meilleurs gardiens du monde naturel, c'est prouvé. Et donc il faut les prendre en compte. Ça, c'est aussi une grosse menace qui va arriver à partir de maintenant, parce que on voit que les Nations Unies ou les gouvernements prennent des grosses décisions par rapport à comment on va faire pour protéger la nature. Et les peuples autochtones sont encore écartés du débat, alors qu'ils sont les principaux concernés.
Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant dans vos campagnes, c'est le fait de dire... En fait, les peuples autochtones ont acquis énormément de savoir qui, aujourd'hui, enfin, dans leur proximité avec leur environnement, et qui, aujourd'hui, doivent être finalement partagés, peut-être à la société industrielle qui a nié finalement tout ce savoir et qui, aujourd'hui, est en train de détruire son environnement. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel vous insistez, sur le fait de mettre en valeur tout le savoir et la culture des peuples autochtones.
Ça serait une perte énorme pour l'humanité, parce que, comme vous dites, il y a des millénaires de savoir qui ont été accumulés par les peuples si on arrivait à la destruction ou à la fin à cause de l'expulsion, de l'expropriation des terres. Ça serait, je pense, vraiment pour la connaissance, pour l'humanité, ça serait une catastrophe.
Est-ce que dans les problèmes, il y a qu'on impose une grille occidentale sur un modèle qui ne l'est pas ? Marion, c'est une question un peu piège, un peu vaste, mais que je trouve...
Non, c'est très intéressant. Ben justement, je pense que ce que dit Marie, ce qui est hyper intéressant justement dans le travail que fait Survival, et que peu de structures font d'ailleurs, donc bravo à vous, c'est de souligner que une des menaces est justement notre vision qu'on a de la nature, et en Occident, et une façon de concevoir la nature, c'est effectivement, en tout cas en Occident, c'est d'opposer nature-culture, et donc d'opposer les humains au reste des non-humains, donc les animaux, les plantes, etc. Et donc on se dit que pour bien protéger la nature, il faut qu'elle soit toute seule. Et qu'on ça part d'une idée qui est intéressante, mais qui, en fait, dans les faits, est fausse. Si on est sur ce constat que les peuples autochtones, effectivement, sont dans des relations au reste du vivant beaucoup plus harmonieuses que nos sociétés l'ont fait. Et donc, oui, on projette souvent sur d'autres, nos grilles occidentales. Et par exemple, à la Fondation, on travaille sur un sujet qui est assez peu connu, qui est la question de la biopiraterie. Et en fait, la biopiraterie, c'est des sociétés pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, des instituts de recherche qui vont essayer de s'accaparer les savoirs que les peuples autochtones ont sur la nature, sur le vivant. Par exemple, telle plante a une propriété cicatrisante, telle autre y a un insecticide naturel, etc. Et donc, évidemment, c'est des savoirs qui sont extrêmement intéressants, et donc on va chercher à s'approprier. Mais la façon dont on a de combattre ce phénomène-là, elle dénote aussi de notre vision occidentale, à savoir, on se dit, ah bah, la meilleure façon de protéger la nature, c'est de poser des brevets, en gros, d'avoir d'être dans une logique marchande et de privatisation. Et à partir du moment où on va gérer un savoir et une plante de manière privée, elle sera mieux gérée. En gros, c'est ça le mécanisme.
C'est aussi un alibi pour...
Voilà. Sauf que, bah, effectivement, ça veut dire que derrière, on a de l'appropriation qui se fait, un vol des savoirs. Et par exemple, la notion de poser un brevet sur le vivant, poser un brevet sur une plante, c'est quelque chose qui est souvent difficile à comprendre pour les peuples autochtones avec lesquels on travaille, parce que derrière, il y a une vision de la nature qui fait qu'on pourrait s'approprier une plante. Mmh. Ça veut dire qu'encore une fois, on est sur un rapport de domination, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une domination d'homme sur homme, mais d'homme sur un autre élément vivant.
Ludovic, vous voulez réagir à ça, sur cette...
En fait, c'était par rapport justement à tout ce qui est connaissance et image qu'on a de l'autochtone. Mmh. C'est que l'autochtone est fait... Enfin, pour faire joli, c'est très folklorique en fait dans la compréhension, dans l'imaginaire occidental. Mais si on prend l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, ou de ce qui s'est passé ces dernières semaines en Australie, il y a eu notamment un article, je sais plus sur quel média, mais en tout cas, qui montrait comment une gestion des aborigènes du territoire. Même en ayant une méthode de brûlis, permettait justement de préserver tout le reste, en fait. Faire des petits brûlis permettait de contrecarrer les grands incendies, en fait. Mmh. Et du coup, ça participe, en fait, à préserver cette biodiversité, alors que, du coup, ben, les incendies brûlent tout, en fait. On a vu le nombre astronomique d'animaux, oui, des végétaux, et voilà. Du coup, ça, c'était des méthodes aborigènes et qui sont un peu plus dynamiques, d'après ce que j'ai compris, dans le nord de l'Australie, et qui sont une méthode, en fait, de gestion du territoire. On n'ose pas le dire. La plupart du temps, on a ces terminologies-là de connaissances, de savoir-faire, etc. Mais on a du mal à franchir le pas de dire que oui, c'est la gestion du territoire, c'est des sciences, c'est... ou faire de la politique, en fait, de l'économie, etc., ou même maintenant de tout ce qui est juridique. Il y a toujours cette barrière-là, en fait, de en fait, c'est de l'urbain, en fait, la personne urbaine, etc., qui suppose être en avance sur d'autres sociétés, en fait, voire supérieure à d'autres sociétés, en fait, c'est ça.
D'accord, oui. Marion, vous vouliez compléter ?
Ouais, pour rebondir sur ce que disait Ludovic, c'est vrai que ces derniers temps, il y a quand même dans les médias et aussi au niveau des scientifiques à l'international, notamment le GIEC ou l'IPBES, qui sont en gros ces scientifiques du monde entier qui réfléchissent à comment lutter contre le changement climatique et comment lutter pour préserver la biodiversité, dans leurs conclusions, maintenant, ça y est, il y a toujours un point qui concerne la question autochtone, à savoir, ils conseillent aux États de reconnaître les droits des peuples autochtones parce que ça reste nos meilleurs alliés et ceux qui vont nous aider à nous en sortir de la crise dans laquelle on s'est mise. Et donc, c'est intéressant cet appel énorme du pied qui nous font. Et là où je voulais rebondir, c'est que c'est vrai qu'il y a donc des savoirs énormissimes chez les peuples autochtones de ce côté-là. Mais moi, je voulais juste rebondir en disant, souvent, ces savoirs-là, on les qualifie. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de mettre un qualificatif derrière. On va dire savoir traditionnel, ancestral, millénaire. Il faut toujours qu'on le qualifie. Pourquoi juste qu'on ne dit pas que c'est une forme de science ? Et c'est un vrai enjeu, parce que du coup, on oppose la science occidentale et les savoirs traditionnels, qui ne seraient pas une forme de science. Sauf qu'on se rend bien compte de la puissance, en fait, de ces savoirs. Parce que si on avait laissé aux aborigènes leur territoire et la possibilité de perpétuer ces savoirs-là et cette gestion du territoire, on n'en serait peut-être pas là au niveau des méga-feux.
Du coup, on en revient à la position de dominance qui impose sa vision, sa grille partout, sans se remettre en cause et sans humilité. C'est bien ça.
Oui. Voilà, c'est bien résumé.
La question était avec une réponse incluse, effectivement.
Ouais. C'est vrai que ce que vous disiez là, sur la biopiraterie, je trouve que c'est intéressant parce que enfin, par rapport à ce qu'on a dit en début d'émission, c'est un peu le même principe que s'approprier la terre, quoi. Sauf que ça se voit peut-être moins parce que c'est des molécules ou une autre façon, mais je trouve que le système, enfin le principe est vraiment identique, quoi. C'est vraiment s'approprier ce qui appartient déjà à d'autres.
C'est ça, mais d'ailleurs, on parle souvent d'une autre forme de colonisation, c'est-à-dire que c'est un peu moins visible que la colonisation telle qu'on la pense, à savoir vraiment avec l'idée de conquête de territoire et d'assimilation, d'extermination de peuples. Mais en fait, on est sur une autre forme de colonisation, on va coloniser le vivant et on va coloniser des savoirs. Et donc, oui, c'est le même principe, c'est juste que c'est un peu moins visible. Et souvent, quand on en parle, on nous dit « oui, mais bon, c'est pas si grave ». Ben, en fait, si, c'est grave, parce que c'est un savoir que je vais m'approprier. C'est-à-dire, je vais me considérer l'inventeur, donc c'est nier l'importance de leur savoir. Donc c'est quand même extrêmement important.
On revient peut-être au principe de « c'était terra non nullis », mais sur un autre domaine. C'est-à-dire, on considère qu'il n'y a pas de connaissance, qu'il n'y a personne, que les plantes sont à nous.
Ludovic, peut-être justement sur cette importance de la diffusion de la culture, vous avez un projet aujourd'hui qui est montage d'une radio, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça.
Vous voulez en dire quelques mots, puisque là, l'émission va bientôt toucher à sa fin, donc c'est intéressant si vous nous en parlez un petit peu.
D'accord, du coup, ce serait une web radio, Radio K. Oka en langue kanya signifie écho, nouvelle d'ailleurs. Et le principe, en fait, c'est déjà de diffuser l'actualité autochtone de Guyane. En second plan, de diffuser l'actualité autochtone dans le monde entier, en fait. Du monde entier, plutôt. Et surtout, le troisième point, c'est d'apporter l'analyse, une analyse autochtone à tout ce qui est actualité. Et porter en fait l'analyse autochtone sur différents sujets en fait.
D'accord. Très bien, parce que c'est vrai que comme vous l'aviez dit, les Kalinas sont présents dans plusieurs pays, donc c'est vrai que l'intérêt de la radio, ça va être de pouvoir aussi toucher, enfin de se parler entre personnes, enfin entre villes ou villages isolés, enfin dans différents pays, quoi. Ouais, voilà, créer le lien entre différents pays.
Que les frontières essayent, que nous occidentaux essayons de briser, peut-être inconsciemment.
Voilà. Alors peut-être pour finir, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des actus ou des conseils à prodiguer aux auditeurs sur comment soutenir les mouvements en faveur des autochtones?
Je pense aller regarder les sites des différentes personnes qui étaient là, lisez beaucoup sur ces sites-là aussi, parce que je pense comme Terre et Liberté, et encore plus comme Radio Can, où on n'est que des porte-paroles des peuples autochtones qu'on représente. Donc on a beaucoup de vidéos, c'est les gens qui parlent de leurs problèmes, leur façon. Nous, on est là pour les aider, les appuyer. Donc regardez un peu tout ce qui est produit pour vous renseigner, pour savoir quel est le meilleur moyen d'aider et comprendre un peu plus les enjeux, les problématiques qui, je pense, sont quand même la crise pour les peuples autochtones est une des grosses crises du 21e siècle, et il faut essayer de mobiliser un peu l'opinion publique. Et puis, même si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas en France, il y en a en France. Donc, c'est important aussi de vous mobiliser.
Vos deux sites web sont très intéressants et bourrés d'actu, de lieux, d'action. J'engage tous les auditeurs à aller voir, éventuellement faire un don, comme à celle sur la radio de Fréquence Paris Pluriel, qui est toujours en danger avec les mouvements politiques, les diffusions politiques qui nous coupent nos budgets. Allez sur notre site, un petit don est le bienvenu.
Marion, vous voulez peut-être ajouter un mot ? Vous auriez le mot de la fin ?
Oula, carrément. je pense qu'en fait, le plus important en tant qu'individu, déjà à l'échelle individuelle, c'est de changer son regard, de s'intéresser à ces peuples-là. J'appelle plutôt à une collaboration avec ces gens, enfin, ne pas forcément toujours être dans une logique de charité ou d'aide à ces peuples-là, mais juste, travaillons ensemble.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu à notre émission. Donc, Marion Weber de France Liberté, Marine Denga Agbe de Survival et Ludovic Pierre, représentant du peuple Kalina en Guyane. Donc, vous pourrez réécouter l'émission sur le site web modedemploi.net et à 7h du matin, mercredi prochain. Donc, nous vous souhaitons une bonne soirée à tous.
Sur FPP, bonne soirée, merci.
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 Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui, en ce lieu, paraît irréelle. C'est le côté obscur de la fosse. Monarque débarque et éteint son pouvoir.